400 ans, le bel âge. Molière, c'est son année. Auteur, comédien, chef de troupe, personnage de sa propre légende. Gloire nationale, réputation mondiale et référence absolue.
Pour les hommes et les femmes de théâtre français, Molière, c'est comme le saint patron.
De vive voix.
Pascal Paradou.
Le saint patron, selon Ariane Nouchkine, qui lui a consacré un film à la fin des années 70, est donc aujourd'hui salué par tous, car ce n'est pas tous les ans qu'on a 400 ans. La Comédie Française joue toute l'année une douzaine de ses pièces, dont un Tartuffe historique. Le magazine Le Point lui consacre un hors-série dans la collection Grande Biographie. Laurence Moreau, sa rédactrice en chef, est d'ailleurs avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Et Martial Poirson, professeur d'histoire culturelle et d'études théâtrales à l'Université Paris 8, lui consacre une grande exposition à Versailles. Bonjour Martial Poirson.
Bonjour.
Laurence Moreau, si Molière est un saint patron, comme le dit Ariane Nouchkine, vous dites, vous, dans votre édito, que c'est un type bien. Mais comment le savoir alors qu'il n'a laissé aucun papier personnel, aucune lettre, aucun manuscrit ?
Il a laissé une œuvre.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal. Cette œuvre, elle a tout le temps été jouée. C'est-à-dire que Molière, contrairement à beaucoup d'auteurs, comme La Fontaine par exemple, est quelqu'un qui a tout le temps été reconnu. Or, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il a été reconnu alors que, par le peuple, il a été reconnu comme étant un auteur populaire, il a été reconnu comme incarnant la langue française, on parle de la langue de Molière. Or, au départ, c'est fondamentalement un auteur de cour. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un homme bien ? Parce que c'est un homme qui, en dépit de sa classe, en dépit de même des besoins d'organisation et de gestion de sa troupe, parce que ça a été un très grand meneur de troupe, a su, à une époque où, si on n'était pas d'accord avec le roi Soleil, eh bien, en gros, on était mort, il a su défendre ses idées, et des idées qui n'étaient pas évidentes. Il a défendu la liberté des femmes dans le mariage avec l'école des femmes. Il a défendu, je dirais, une certaine liberté de pensée dans Tartuffe. Il s'est moqué de beaucoup de gens qui avaient un pouvoir extrêmement important à l'époque. Bref, il a été un courtisan. Un courtisan très habile, mais dans le même temps, il a été un homme courageux qui a su se battre jusqu'au bout pour défendre ses idées. Et donc, c'est un homme bien pour cela, parce que c'est un homme courageux qui a une vraie colonne vertébrale.
Pour autant, il y a très peu de documents de sa main qui attestent de ses faits et gestes, de ses pensées ou de sa biographie. Et Martial Poirson, vous dites que tout ce que l'on croit connaître est faux. Il y aurait donc un mystère Molière ?
Alors, mystère, oui et non. C'est-à-dire qu'effectivement, et ce n'est pas un fait extrêmement rare à l'époque, il ne reste aucune trace d'une œuvre immense, dans la mesure où Molière, avant d'être l'auteur national consacré qu'il est devenu aujourd'hui, se concevait et se présentait d'ailleurs plutôt comme un homme de scène. Et c'est d'ailleurs en homme de scène qu'il écrivait, puisque en tant que génial directeur de troupe, il crée des rôles pour ses comédiens, il crée des formes pour répondre aux injonctions du roi, avec une certaine distance. Donc je dirais que plutôt que courtisan, il était un favori, hein, ce qui n'est pas tout à fait pareil, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est acquis les faveurs du roi, mais sans compromission, et en restant lui-même, et en tenant jusqu'au bout, notamment dans la querelle sur le Tartuffe. Il n'a jamais renoncé, hein, 7 ans quand même de cabale, pour pouvoir faire jouer une pièce qui, malgré ses transformations, garde une certaine audace. Donc voilà, quelqu'un qui a su manœuvrer, qui avait un sens tactique aigu, qui avait une conscience de sa responsabilité au sein de la troupe, et même au-delà, hein, puisque on raconte parmi les légendes que même quand il était malade, il refusait de ne pas jouer pour ne pas mettre au chômage les gagistes, c'est-à-dire des gens qui étaient payés à la journée, les intermittents de l'époque, et dont le revenu dépendait du fait qu'on lève ou non le rideau. Donc une véritable conscience professionnelle et la conscience d'une responsabilité morale vis-à-vis de ses partenaires. Et c'est peut-être aussi en cela qu'il est un homme bien. Et puis surtout, c'est une surface réfléchissante, puisque chaque époque, j'imagine qu'on va en parler longuement aujourd'hui, se reflète en lui et y puise des choses qu'il aurait été probablement le premier surpris d'entendre.
Donc sa vie, c'est son œuvre, comme le disait un peu Laurence.
Alors non, c'est pas non plus son œuvre, et je pense que justement cette œuvre, elle a pâti de ce qu'on pourrait appeler des raccourcis biographiques. On a voulu y voir une façon de régler ses comptes avec un père avec lequel il aurait eu des conflits, ce qui a été invalidé par les biographies sérieuses. On a voulu y voir un atrabilaire mélancolique qui se peignait lui-même dans Le Misanthrope, en oubliant qu'en fait le vrai personnage phare de la pièce, c'est Philinte, c'est celui qui justement refuse de renoncer au monde. On a voulu voir dans sa mort le signe d'un comédien absolu qui finalement imite la mort avec une telle perfection qu'il en crève, hein, comme il est dit d'ailleurs dans la pièce. Donc, il me semble que toutes ces
légendes...
Alors
qu'il n'est pas mort sur scène. Hein, alors qu'il n'est pas mort sur scène. Il a un malaise sur scène, mais il est mort plus tard.
Absolument, absolument. Donc, ça fait partie de cette légende dorée qui s'est construite et qui probablement réduit l'interprétation qu'on peut avoir de l'œuvre et notamment lui fait perdre son sens politique. Si Molière critique les pères, c'est pas pour régler ses comptes avec le sien, c'est parce qu'il sait que le père, c'est la structure fondamentale sous l'Ancien Régime du patriarcat, et que le patriarcat, c'est la source même de l'abus de pouvoir sur les femmes, sur les domestiques, sur un certain nombre de maillons faibles de la société du temps.
Donc un auteur politique.
Un auteur éminemment politique, même si les différentes couches de lecture qui se sont superposées ont parfois voulu le tirer vers des significations qui renvoient plutôt aux considérations du temps que véritablement à l'intention de l'auteur.
Alors nous allons raconter Molière aujourd'hui, mais surtout aussi comment il est devenu une gloire nationale, un auteur à l'international, mais aussi pourquoi on parle du français comme de la langue de Molière. Mais auparavant, nouveau titre de Ézéchiel, car comme dans les comédies-ballets de Molière, il y a de la musique dans de vives voix. Des torrents, titre du nouvel album d'Ézéchiel, Mémoire du feu. Aujourd'hui, on lit, on relit et on écoute Molière. On décortique aussi son œuvre et sa légende avec Laurence Moreau, rédactrice en chef du hors-série Le Point, qui est consacré au Sieur Poquelin, et l'historien Martial Poisson. Donc, la notoriété de Molière est immédiate dès le XVIIe siècle, disiez-vous, mais il devient une gloire, un monument, et c'est un peu le thème de votre exposition et de votre beau livre, La fabrique d'une gloire nationale, Martial Poisson. Et il devient un monument au XIXe.
Absolument, et même déjà au XVIIIe, hein, puisque les philosophes des Lumières s'en emparent, et Diderot dit par exemple dans l'encyclopédie, quand même, ce qui n'est pas rien, qu'il est déjà un esprit des Lumières, dès le grand siècle, en fait, hein, qu'il est une sorte de préfiguration et de devancier, et que Voltaire le décrète philosophe et moraliste, ce qui n'était pas du tout son ambition, évidemment. Donc, il y a une sorte de processus de classicisation dès le XVIIIe siècle, qui est rétrospectif, évidemment. Et puis, au XIXe siècle, ce qui s'invente, c'est plutôt l'idée d'un patrimoine national, d'un Molière symbole d'un certain esprit français. Alors, ce qui est drôle, c'est que cette idée va naître sous la plume de Germaine de Staël, et plutôt comme un portrait à charge, en disant voilà, l'esprit français, c'est la sophistication des salons, c'est la culture galante, c'est la France mondaine, c'est les cercles féminins, dans lesquels, évidemment, Molière était extrêmement connu aussi, hein, puisqu'il avait une fortune à la fois sur les planches et dans les salons. Donc, c'est plutôt quelque chose qui, dans son esprit, va contre ce qu'elle estime être l'authenticité des peuples germaniques. Et puis ensuite, ça va être repris et transformé comme un élément de louange et comme une forme de patriotisme culturel.
Mais vous diriez qu'il y a une forme d'instrumentalisation de Molière sous la Troisième République ?
Alors oui, alors là, clairement, oui, sous la Troisième République, il y a encore un cran dans le curseur de plus, puisque cet esprit français est investi d'une fonction critique, civique, patriotique et démocratique. C'est vraiment le sacre républicain d'un Molière dont le théâtre est perçu comme une école du peuple, d'une certaine façon, et notamment une école de l'âge adulte. Et donc, ça participe complètement du projet d'instruction publique pour tous, qui est vraiment porté par cette jeune République. Et Molière envahit les manuels scolaires, ou plutôt un certain Molière, réduit aux grandes comédies de caractère, puisque les comédies-ballets, à ce moment-là, ont un peu mauvaise presse, et qu'il s'agit de faire oublier en partie l'ancrage de ce théâtre dans les fastes de la cour.
Et il envahit les manuels scolaires en France, mais aussi à l'étranger, dans les colonies, puisque c'est la grande période de la colonisation française.
Absolument. Effectivement, le projet des lois Ferry, c'est l'instruction de tous les Français, y compris dans l'Empire. Donc, administrateurs et instituteurs coloniaux partent avec, dans leur bagage, le Molière bréviaire républicain, qui va participer très, très activement à ce projet de civilisation des 10 indigènes à l'époque, et devenir un outil à la fois d'ambassade et de propagande.
Donc c'est un colonisateur, Molière ?
Malgré lui, hein, bien sûr, comme beaucoup de choses.
Je vois Laurence rire, enfin je l'entends surtout, Laurence Moreau. C'est un colonisateur, Molière ?
Non, on ne pourrait pas dire ça, mais je crois qu'il faut quand même insister sur le fait qu'on a aussi tendance à tirer Molière à nous, comme le disait M. Poisson tout à l'heure, en fonction de l'époque. Molière, c'est un homme de l'actualité. Toutes ses pièces sont reliées à l'actualité. Et il est intéressant, par exemple, de voir dans Bourgeois Gentilhomme la manière dont il traite les Turcs. C'est tout à fait typique du regard que porte à ce moment-là l'Europe chrétienne sur cet empire ottoman qui fascine qui est symbole de puissance, de richesse, etc. Et son grand Mamamouchi, aujourd'hui, serait considéré comme un outrage, un blasphème au regard qu'on peut avoir sur le monde musulman. Mais non, c'était absolument pas un colonisateur. Mais en revanche, comme vous le montrez très bien justement dans le hors-série du Point, parce que Martial Poisson a participé largement à ce hors-série, comme il le montre très bien, il est vrai que l'esprit de Molière, c'est-à-dire ce côté rebelle, cette manière de dire les choses plus ou moins sans y toucher, a été repris par les locaux qui étaient avides d'indépendance.
Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est-à-dire qu'il est à la fois un outil de la civilisation française et en même temps, les populations s'emparent de lui, et vous le racontez très très bien, en Indochine, par exemple, pour en faire un sujet et un auteur de rébellion avec une revendication nationaliste.
Oui, c'est ça qui est fascinant, c'est qu'effectivement, en dépit de ce processus d'inculcation forcée, Molière très rapidement va fasciner les jeunes indigènes éduqués à l'école de la République française et qui vont y voir effectivement une sorte de porte ouverte vers ce qui deviendra le mouvement indépendantiste, puisque Molière ne parle que de liberté de conscience et d'opinion, de secouer le joug de toutes les formes de l'autorité abusive, de refuser la façon dont certains leaders d'opinion vont s'imposer à la crédulité du peuple. Donc il va être retourné d'une certaine façon contre la présence coloniale. Et il va d'ailleurs survivre à ce processus de décolonisation pour rester très actif, traduit dans toutes les langues autochtones locales et d'ailleurs participant activement à la prise de conscience aussi d'ailleurs au Vietnam par exemple, du fait que maintenant qu'on a traduit Molière et qu'on sait que le théâtre, ça fonctionne bien, eh ben, il faut se créer aussi un théâtre national. Et tout, les deux choses vont vraiment de pair, traduire Molière et inventer une littérature nationale.
Et vous rappelez que Le Malade imaginaire est la première pièce française traduite en vietnamien et en est en 1920. Est-ce que c'est vrai aussi pour l'Afrique ?
Alors l'Afrique, de façon plus problématique probablement, mais ce qui est vrai pour l'Afrique, c'est que, et ça tous les témoignages le montrent, y compris de la part de comédiens qui participent complètement à l'idéologie coloniale de l'époque, hein, qu'ils reconnaissent tous une immense ferveur, y compris dans les zones rurales, dans les campagnes, dans des endroits où on peut se dire qu'on est très très éloigné du canon du classicisme français. Il y a une sorte de rapport très intransitif, très direct à ce théâtre. On rit, on s'esclaffe, on participe... Voilà, et donc il y a une sorte de fascination pour la plupart des grands comédiens qui sont partis en tournée comme ça, sous l'égide de ce qui deviendra ensuite la francophonie, enfin d'une politique vraiment de rayonnement de la culture française, et qui vont donc découvrir des réappropriations, des façons de rire à des endroits qui ne sont pas forcément les mêmes que ceux auxquels rient les publics de la métropole. Voilà, donc il y a une sorte de redécouverte et de réinterprétation par la réception locale de ce théâtre.
Alors Molière, qui est donc adopté par le public populaire africain, il y a notamment une pièce qui va faire un tabac, c'est l'avare.
Je me suis engagé, maître Jacques a donné ce soir à souper.
Ah, grande merveille.
Dis-moi un peu, nous feras-tu bonne chère?
Oui, si vous me donnez de l'argent.
Oh, que diable! Toujours de l'argent! Il semble qu'il y a autre chose à dire, de l'argent, de l'argent, de l'argent! Je n'ai jamais vu de réponse plus impertinente que celle-là.
Combien serez-vous de gens à table?
Nous serons 8 ou 10, mais il ne faut prendre que 8. Quand il y a à manger pour 8, il y en a bien pour 10.
Eh bien, il faudra 4 grands potages, 5 assiettes.
Que diable! Voilà pour traiter toute une ville entière! Est-ce que vous avez envie de faire crever tout le monde? Et monsieur, a-t-il invité des gens pour les assassiner à force de mangeaille? Apprenez, maître Jacques, vous et vos pareils, que c'est un coupe-gorge qu'une table remplie de trop de viande, que pour se bien montrer ami de ceux que l'on invite, il faut que la frugalité règne dans les repas qu'on donne, et que, suivant le dire d'un ancien, il faut manger pour vivre, et non pas vivre pour manger.
De Funès Galabru et Hervé Belon, ça c'est dans le film De Funès l'avare, mais vous racontez, Martial Poisson, que Jean Vilard, dans les années 60, précisément en 66, a fait une immense tournée en Afrique, dans 13 pays africains, avec cette pièce. Est-ce que cela veut dire que Molière est un matériau transposable ?
Bien, c'est ce qu'ont l'air de dire beaucoup de metteurs en scène, notamment Ariane Mnouchkine, que vous avez cité tout à l'heure, mais aussi aujourd'hui Denis Podalydès ou d'autres. En fait, ce qui est très intéressant chez Molière, c'est qu'il a su utiliser la farce, la commedia dell'arte, avec une langue populaire, pour faire passer des idées politiques, mais aussi une analyse psychologique très fine d'un certain nombre donc de personnalités. Et ça, aujourd'hui, on peut aisément l'utiliser. Et comme vous l'avez montré, effectivement, à l'étranger, les gens ont su l'adopter et le transposer dans leur culture nationale.
Vous avez une très belle expression, Martial Poisson, c'est la fraternité du rire, à propos de Molière. C'est une belle formule, quand même, pour raconter comment ce fameux poquelin devient transculturel, international, et touche toutes les catégories.
Mais ce qui est très intéressant, c'est que où est-ce que Molière trouve son inspiration ? Molière, quand il commence à écrire, il y a deux sources de rire. Donc à l'époque, il y a d'un côté la commedia dell'arte qui vient d'Italie, mais de l'autre côté, le théâtre espagnol. Et en fait, c'est très intéressant de regarder l'évolution de ces pièces, parce qu'il va travailler dans le même théâtre que les comédiens italiens, donc il aura accès à tout le répertoire de la commedia dell'arte, et dont il va user largement, mais il va aussi savoir utiliser certaines pièces comme du théâtre espagnol, et il va en faire sa sauce. Et donc, il y a des aspects très farcesques dans un certain nombre de pièces, même des pièces qui sont dans Bourgeois Gentilhomme, par exemple, dans L'Avare, on l'a entendu, et donc qui peuvent parfois plaire aux enfants et peut-être moins plaire aux adultes aujourd'hui, mais qui, en même temps, donnent un aspect universel à son rire, et qui font qu'il est aisément transposable.
Alors, vous l'avez rappelé l'un et l'autre, Molière est le plus lu et le plus joué dans le monde après Shakespeare, et du français, on parle de la langue de Molière. À partir de quand le français devient la langue de Molière. Martial Poisson, est-ce que c'est lié aussi à cette période du 19e siècle et de cette idée d'une gloire nationale et du patrimoine Molière ?
Oui, absolument. Le 19e siècle va inventer une fiction politique hein, qui consiste à dire que la culture française naît sous les Gaulois, se perpétue avec le rire de Rabelais, qui serait donc un rire populaire, émanation directe du peuple, directement transposée dans la littérature, et puis aurait cheminé ensuite par Molière pour arriver donc jusqu'au 19e siècle. Cette fiction, elle permet de créer l'illusion d'une identité, d'une unité culturelle nationale, d'une sorte d'auteur qui serait un auteur de réconciliation. Mais ce qui est intéressant chez Molière, c'est que quand on regarde la diversité de ses œuvres, c'est qu'effectivement, elle puise aux sources de la farce, d'un comique très gestuel, très physique, fondé sur la performance, et elle va ensuite exploiter toute la palette du comique jusqu'à la comédie-ballet, c'est-à-dire en fait du vers libre en musique, support de jeu pour des danseurs qui peuvent être nombreux. Hein. Dans Psyché, il y a quand même plus de 200 interprètes. Donc on est vraiment dans une langue qui traverse absolument tous les registres et qui du coup devient emblématique de cette palette de styles dont il est probablement peut-être le seul à incarner vraiment les deux aspects les plus apparemment contradictoires.
Le français, la langue de Molière, sur ce sujet, Denis Podalydès, qui est l'un des plus grands comédiens de la comédie française, qui a mis en scène les Fourberies de Scapin, le Bourbeau Gentilhomme, et qui joue actuellement Orgon dans le Tartuffe, sur ce sujet, il dit qu'il ne faut pas s'embarrasser de l'aspect patrimonial.
Il y a tout un catéchisme autour de Molière qui est issu, en fait, de la Troisième République. Il fallait créer un ferment laïque, donc on a créé des saints laïcs, et Molière est un de ces saints laïcs, il y a Voltaire, parce que ça, c'est pour alimenter, comme on dirait, le roman national. Mais je crois que c'est une exploitation de ces noms-là. Donc il faut, nous, par exemple, je me rends compte, quand on répète, tout ce Molière patrimonial ne nous sert absolument pas. On va contre ça, on est obligé de mettre tout en pièces, en question de déchirer, de recomposer, etc. On profane.
Denis Podalydès au micro de Muriel Malouf, profané, damned en français dans le texte. Est-ce qu'on a le droit de profaner Molière ?
Bah lui, en tout cas, il a profané la langue française, parce que on parle beaucoup de la langue classique de Molière, mais quelqu'un comme La Bruyère, par exemple, disait que Molière n'écrivait pas bien, que c'était pas une langue classique. Et quand vous examinez la langue de Molière, ce qui est très intéressant, c'est de voir que c'est un homme qui a vécu, qui était parisien. Il est né à Paris, élevé à Paris, et après l'échec d'une première tentative théâtrale, il va partir pendant 12 ans à travers la France, et notamment, il va tourner très longtemps en Pays d'Oc. Et là, il va récupérer des mots, des expressions qui sont des expressions locales, de palais locaux, et qu'on va retrouver dans sa langue. Et la langue de Molière, c'est une langue qui est à la fois une langue tout à fait audible par la cour, très raffinée, très élégante, très ductile, et dans le même temps, une langue très populaire où les spectateurs, les gens qui vivent à Paris, mais les gens aussi qui viennent de province et qui vont écouter une pièce, voir une pièce quand ils viennent à Paris, retrouvent leur propre langue. Et en cela, il est iconoclaste. Il va choquer les gens autour de lui, et notamment les grands auteurs du temps.
Les traducteurs sont aussi parfois iconoclastes avec la langue de Molière, notamment dans le monde arabe, vous le racontez très bien, Martial Poisson, il y a une forme de liberté quant à la traduction de Molière qui va être, par exemple, traduite, son œuvre est traduite en arabe dialectal au Liban, et ça commence par l'avare d'ailleurs. Et là, on ne reconnaît pas forcément le Molière dans le texte.
Oui, c'est-à-dire que ce qui est intéressant dans le monde arabe, c'est qu'il n'y a effectivement pas de dimension patrimoniale à ce théâtre. Donc on revient finalement au sens primitif qu'il avait pour Molière lui-même. Rappelons quand même qu'il a été relativement négligent dans l'édition de ses pièces, qu'il est mort avant d'avoir présidé l'édition complète de ses œuvres, que certains textes ne seront retrouvés que bien plus tard, et que surtout la plupart des virgules qu'on respecte dévotement aujourd'hui, en fait, il ne les a pas écrites, elles viennent des éditions ultérieures. Donc à partir du moment où on n'est plus dans ce rapport de dévotion patrimoniale, de sanctification, eh bien, on peut retrouver l'essence même de ce théâtre, qui est effectivement une écriture de plateau. Molière, quand il devient auteur, ne renonce jamais à cette dimension. Et c'est ce qui fait probablement sa spécificité par rapport à ses illustres devanciers comme Corneille, qui est un monument littéraire, mais qui n'est qu'un monument littéraire, ou même plus tard Racine.
Alors, on écoutait Denis Podalydès il y a quelques minutes. Il est en ce moment à l'affiche de Tartuffe à la Comédie Française, mais c'est un Tartuffe un peu particulier. Vous avez commencé à l'évoquer, Martial Poirson, car c'est la version à laquelle on assiste, la première version écrite par Molière en trois actes, qui s'appelle d'ailleurs L'Hypocrite, quand la version que l'on connaît se nomme L'Imposteur. C'est une version qui n'a été jouée que devant Louis XIV, car elle a été ensuite interdite de représentation publique. Donc c'est une première mondiale en ce moment à la Comédie Française, dirigée par le metteur en scène belge-flamand Ivo Van Hove.
Ah, mon frère, bonjour.
Je sortais et j'ai joie à vous voir de retour. La campagne, à présent, n'est pas beaucoup fleurie.
Dorine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour m'ôter de soucis que je m'informe un peu des nouvelles d'ici ? Tout s'est-il ces deux jours passés de bonne sorte ? Qu'est-ce qu'on fait séant ? Comment est-ce qu'on s'y porte ?
Madame eut avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir.
Et Tartuffe ?
Tartuffe ? Il se porte à merveille, gros et gras, le teint frais et la bouche vermeille.
Le pauvre homme.
Le soir, elle eut un grand dégoût et ne put au souper toucher à rien du tout, tant sa douleur de tête était encore cruelle.
Et Tartuffe ?
Il soupa, lui, tout seul, devant elle, et fort dévotement, il mangea deux perdrix avec une moitié de gigot en hachis.
Le pauvre homme.
La nuit se passa tout entière sans qu'elle pût fermer un moment la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller, et jusqu'au jour, près d'elle, il nous fallut veiller.
Et Tartuffe ?
Etc., etc. Dans cette scène, Orgon révèle son obsession et sa fascination pour le dévot Tartuffe, et c'est Denis Podalydès avec ici Dominique Blanc dans le rôle de la servante Dorine. Donc cette version, c'est une redécouverte, et puis pas vraiment non plus, parce que c'est une hypothèse, c'est une reconstitution de la version initiale. Est-ce qu'il y a des traces vraiment de cette première version ? Non, c'est un travail d'archéologie.
C'est un travail de reconstitution historique, effectivement. Ça revient au cœur de la trame primitive de la pièce telle qu'elle a été présentée en 1664. Et alors ensuite, elle a été interdite. On sait qu'elle a continué à circuler dans des cercles très, très restreints, en huis clos, avec une espèce de zone de tolérance comme ça. Mais elle était interdite de représentation publique. Donc on a un certain nombre de témoignages. On a des méthodes qui ont été utilisées par Georges Forestier pour reconstituer ce texte d'analyse stylistique, de déduction, de ce qu'on appelle la critique génétique. En fait, on est revenu à la source même du truc. On ne peut pas avérer que ce soit vraiment le texte exact qui a été entendu par le roi et par l'Église, mais en tout cas, on est dans une version probablement proche de ce qui a été quand même un des plus grands scandales culturel de l'époque.
En tout cas, c'est tout à fait passionnant de voir les variations comme ça entre la version que l'on connaît et cette première version. Alors, il va y avoir beaucoup d'événements dans cette année Molière, des livres, des films, des pièces de théâtre, etc., etc. Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'overdose où la passion pour Molière est telle qu'elle est insatiable ? On parle même du Panthéon pour Molière.
Ben, je crois qu'il y a quand même une grande ferveur. Molière fait vraiment partie des passions françaises et on a beaucoup parlé des enjeux politiques de cette récupération au XIXe siècle, mais on n'a pas évoqué ce qu'on a appelé à l'époque le moliérisme, c'est-à-dire un mouvement qui vient de la société civile, qui vient d'un certain nombre d'érudits, de savants, de comédiens, mais aussi de gens tout à fait éloignés du milieu culturel a priori et qui ont participé à porter finalement ce qui est devenu un véritable culte de la personnalité. Donc je pense que ce culte demeure aujourd'hui, qu'il est encore très actif, que probablement cette année conduira à des découvertes, on l'a vu avec ce Tartuffe qui n'a jamais été montré, et aussi peut-être à des débats politiques, puisque le Panthéon ne fait pas l'unanimité.
Alors, on va tous devenir des spécialistes à la fin de l'année. Merci à tous les deux. Laurence Moreau, le point hors-série Grande Biographie Molière, Les Secrets d'un Génie est actuellement en kiosque. C'est un travail formidable de synthèse et d'illustration. Martial Poirson, merci. La fabrication d'une gloire nationale est éditée au Seuil et ce beau livre accompagne l'expo du même nom à l'espace Richaud à Versailles, à voir jusqu'au 17 avril. De vive voix, Pascal Paradou, programmation Cécile Lavolo et Guillaume Ploquin à la réalisation. Bonne fin de semaine.